Voilà, nous voulons lire dans Romains chapitre 6. Nous sommes arrivés à ce chapitre important parce qu'il souligne l'importance de cette nouvelle vie en Christ. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent avec le Jésus sauveur. Ils veulent un Christ qui est mort pour leurs péchés. Ils sont prêts à accepter cela afin de pouvoir avoir la vie éternelle. Mais ici, l'apôtre Paul nous parle de, oui, il y a le Jésus Sauveur, mais il y a aussi le Jésus Seigneur. Certainement, il est Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs, il est en tant que titre, bien sûr, il n'y a pas de doute. Mais la question, c'est est-ce qu'il est Seigneur dans ma vie? C'est-à-dire, est-ce que je donne une très grande importance à sa volonté et je désire accomplir sa volonté. Est-ce que je vis pour lui? Et donc, dans ce chapitre, nous avons ce point-là. Hein, nous avons déjà vu comment nous sommes déclarés justes et par là la vie éternelle. Mais maintenant, et qu'est-ce que j'en fais? Donc, nous allons lire Romains chapitre 6, et nous allons lire les premiers 14 versets. Je lis au verset 1, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc ici, nous voulons nous rappeler encore une fois, parce que c'est une progression de pensée, hein. Là le chapitre 6 commence par « Que dirons-nous donc ?» hein, donc c'est la suite de ce qui vient d'être dit précédemment. Et pour que bien tout mettre dans le contexte, rappelons-nous que l'apôtre Paul s'est donné comme objectif, c'est de nous présenter l'évangile de Dieu. Hein, dans chapitre 1, verset 1, il nous parle de l'évangile de Dieu. Et en fait, depuis le chapitre 1, là, nous sommes en train de progresser et nous sommes en train de comprendre, il est en train de nous aider à comprendre chaque aspect de cet évangile et ce qu'il apporte. Et plus on va, plus on le trouve merveilleux, n'est-ce pas? Et donc, donc, il nous parle de cette bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle qui a réjoui les anges à la naissance de Jésus, hein, ces anges qui ont apparu, qui disent « Je vous annonce une bonne nouvelle » et qui nous donnent même l'intention de Dieu, ce que Dieu veut pour les hommes. Et ils ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ». C'est vraiment ce que Dieu veut pour l'homme. c'est une chose qu'il a perdue. En fait, nous avons vu que dans les premiers chapitres que l'humanité est prise dans un bourbier duquel il est incapable de s'extraire. Il est pris dans sa situation et peu importe ce qu'il fait, ça ne le rendra pas présentable à Dieu. Paul dira aux Éphésiens et dit « Nous étions morts par nos péchés et par nos offenses. » Éphésiens 2.1. Et là, je m'arrête sur le mot « mort ». Qu'est-ce que c'était ? On était morts. Qu'est-ce que veut dire que nous étions morts ? Bien, pour cela, il faut aller retourner. Hein. C'est le réflexe. Chaque fois que vous cherchez un mot, allez chercher la première fois qu'il est mentionné dans la Bible. Et bien sûr, il apparaît dans Genèse, dès Genèse chapitre 1, quand Dieu dit à Adam et Ève, qui sont dans le jardin, il leur dit, écoutez, vous pouvez jouir de tout ce qu'il y a dans le jardin. Seulement, il y a un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous connaissez l'histoire ? Ils en ont mangé. Et non pas parce qu'il manquait de nourriture, parce que c'était la famine. Ils ont mangé de cet arbre. Et donc, nous voulons croire que, parce qu'ils ont mangé, ils sont morts. Mais physiquement, ils ne sont pas morts tout de suite. Heureusement, sinon nous ne serions pas là. Donc, essayons de comprendre ce que représentait cette mort. En lisant dans le chapitre 2, et puis on arrive au chapitre 3, et on voit le moment où ils désobéissent, et puis nous voyons que dès qu'ils mangent de ce fruit, tout d'un coup, ils ressentent que quelque chose a cassé en eux. Il y a quelque chose qui s'est déréglé. Et le premier sentiment qu'ils ont eu, c'était un sentiment de nudité. Pas nudité physique comme on pense, parce qu'il n'y avait personne d'autre, il n'y avait que eux. Mais il y a une nudité, cette culpabilité leur a créé un sentiment de nudité et ils avaient envie de se couvrir. Et ils ont même essayé avec des feuilles de figuier, mais c'était insuffisant parce que dès qu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui dans le fond du jardin et se sont cachés dans l'ombre. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé en eux. Et ils n'étaient pas en mesure de rencontrer Dieu. Ils entendaient sa voix, ils entendaient son appel. Dieu qui disait à Adam, où es-tu ? Non pas que Dieu ne savait pas où il était, mais c'était pour que Adam reconnaisse où il est et où il est tombé et dans quel état il était. Et il dit, on s'est caché parce qu'on se sentait nu. Il dit, mais qui vous a donné ça ? Avez-vous mangé de l'arbre ? Et alors, bon, vous connaissez l'histoire. Mais, à la fin de la discussion, Adam et Ève reconnaissent qu'ils ont mangé de l'arbre. C'était leur acte de désobéissance qui a déclenché tout cela. Et comme nous l'avons vu dans Romains chapitre 5. Mais ils ont mangé de l'arbre et quelque chose s'est passé. J'ai entendu la voix, ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est tout ce qu'ils avaient à dire. Mais quand ils ont reconnu leur état, eh bien, il y avait deux réactions qu'on peut prendre. Hein. Donc, première chose que je souligne, c'est le fait que quand Adam et Ève sont morts, donc après la chute, ils pouvaient encore entendre la voix de Dieu qui leur parle. Et ils ont reconnu leur péché, et c'est l'une des réactions qu'on peut avoir lorsque nous prenons conscience de notre péché, lorsque Dieu nous parle et nous amène au point où nous avouons notre état. Eh bien, nous prenons conscience de notre péché. Et là, la réaction de Dieu, et c'est là où nous voyons tout de suite la grâce de Dieu, c'est qu'il fait la promesse d'un sauveur. Genèse 3,15, il dit, et tu auras un descendant qui écrasera la tête du serpent. Et c'est l'une des réactions possibles encore aujourd'hui. Dès que nous entendons la parole de Dieu et nous prenons conscience de notre état, que nous sommes pécheurs, et que notre péché, nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Hein, c'est pire que d'essayer de se défaire d'un chewing-gum qui colle chaque fois qu'on le prend. Là, c'est encore pire. Et là, c'est le c'est, mais Dieu propose un pardon. C'est l'une des réactions, la première réaction, lorsque nous reconnaissons notre état et nous comprenons que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et nous lui demandons de nous pardonner, eh bien là, il pardonne. Ou bien nous avons la réaction de Caïn qui, lui, avait offert un sacrifice, comme son frère Abel. La grande différence entre les deux sacrifices n'était pas forcément l'objet du sacrifice, mais le fait qu'il l'ait offert par la foi. Dans Hébreux 11, il nous dit qu'Abel, c'est par la foi qu'il a offert son sacrifice, tandis que Caïn, ce n'était pas par la foi. Et c'était là l'élément manquant. Et donc, Dieu va s'approcher de Caïn. Il va lui parler alors qu'il est en état de il est fâché, il est tout triste. Et Dieu, dans sa compassion, va vers lui, comme il avait été chez Adam. Il va vers lui et il dit, Caïn, écoute, si tu faisais les choses comme je demande, comme je le désire, eh bien, ça irait mieux pour toi. Et Caïn s'endurcit. Il refuse de faire ce que Dieu veut. Et bien sûr, il n'a pas de pardon. Hein, et il devra assumer les conséquences. Et encore aujourd'hui, combien sont les personnes qui disent à Dieu, écoute, moi, je t'ai proposé quelque chose, j'ai voulu faire, voilà ce que j'ai fait pour toi, tu ne l'as pas accepté, et ben tant pis. Mais bon, c'est de... Dieu dit, écoute, donne-moi ton cœur, confesse ton péché. Il ne dit pas, je ne veux pas tes actions, je ne veux pas tes jeûnes, je ne veux pas tes pèlerinages, je ne veux pas ta fidélité à l'Église, je ne veux pas tout cela. Ce que je veux, c'est que tu confesses ton péché, car si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. L'homme pécheur peut entendre la parole de Dieu et il peut faire un choix d'accepter, comme Adam et Ève, l'offre que proposait la grâce de Dieu, ou il peut s'obstiner et rejeter l'offre de Dieu comme Caïn. Donc, au chapitre 4 de Romains, il nous parle de David qui avait péché, et David qui reconnaît son péché, et il parle de la joie qu'il a eue quand ses péchés étaient pardonnés. Il dira « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Romains 4, 7 et 8. Il parle de cette joie et peut-être que vous l'avez vécu. Je vous rappelle ce jour où vous avez confessé votre péché, vous avez demandé à Jésus de vous pardonner par son sang, par sa mort sur la croix. Et tout à coup, vous avez vécu un soulagement, il y avait une joie nouvelle. Ben c'est exactement ce qu'a vécu David. Parce qu'on retrouve la communion qui avait été rompue. Et vous savez, la joie pour l'être humain, c'est de retrouver les conditions pour lesquelles il a été créé. L'homme a été créé pour adorer Dieu et pour vivre en communion avec Dieu. Et tant qu'il n'a pas retrouvé cet état-là et cette capacité-là, eh bien, il ne peut pas être vraiment heureux ou en paix. Dans le même chapitre 4, il nous parle de et David et Abraham qui ont cru à la parole de Dieu. Et ils ont cru et cela leur fut imputé à justice. Ils ont été justifiés. La justification n'est que pour des coupables, n'est que pour des pécheurs. On ne justifie pas des justes, on justifie des pécheurs. Et Abraham avec tout ce qu'on peut dire de lui et de sa foi. Et David, mais il fallait qu'il croie. Et cela leur fut imputé à justice, ils furent déclarés justes l'un et l'autre. Et c'est encore vrai aujourd'hui, le jour où je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur, mes péchés sont pardonnés et Dieu me déclare juste. Dans la deuxième partie, au début du chapitre 5, eh bien, justement, il nous parle premièrement de ce qui découle de cette justification, et il nous dit que nous avons la paix avec Dieu. Les choses sont rétablies, ce qui nous séparait de cette communion, ce qui avait brisé cette communion, eh bien, elle est rétablie, nous sommes en communion avec Dieu, et donc nous avons la paix avec Dieu. Et par la suite du chapitre 5, il nous parle de l'origine, et là, il commence à parler du péché. Donc, il y a une distinction entre les péchés, qui sont les actes que nous commettons, qui sont des désobéissances à Dieu ou des manques d'obéissance. Mais il y a le péché, qui est le principe du péché, qui est en nous depuis que Adam a péché. Donc, le péché est en nous. Et cette distinction, elle est dans les évangiles. C'est Jean-Baptiste, quand il voit venir Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc, c'est un problème. Il y a le péché qui doit être enlevé et il y a les péchés qui doivent être expiés. Et donc, ici, donc, il nous parle de l'origine du péché dans la deuxième moitié du chapitre 5. Et il nous dit, c'est par la désobéissance d'un seul, Adam, que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous tombés dans ce péché, cet état de péché. Et il nous dit, mais aussi, il y a eu un second Adam, un dernier Adam, Jésus-Christ, qui par un acte d'obéissance, eh bien, nous offre l'accès à la justice, à être justifié. Donc Dieu est tout à fait juste en cela. Un seul acte de désobéissance a fait de nous des pécheurs. Un seul acte d'obéissance par celui qui est sans péché peut faire de nous un justifié. Donc on arrive à la fin du chapitre 5 où il nous dit, au verset 20 et 21, il nous dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde ». Donc la loi nous a rendu conscients de la présence des péchés. S'il n'y avait pas, il n'y a pas de loi, on ne peut pas savoir quand on a péché. Donc la loi donnée par Moïse nous a rendu conscients de nos péchés. Donc, tout d'un coup, on s'est rendu compte combien nous étions pécheurs. Mais il nous dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est très important de prendre conscience de notre péché, même de la gravité de notre péché, de la quantité de nos péchés. Mais il nous dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, nous avons ça semble merveilleux, si le message s'arrêtait là, on dit, oh, c'est formidable, le péché est là, le péché abonde, la grâce de Dieu est plus que suffisante pour obtenir le pardon. Et donc, et nous, pour la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Et certains s'arrêtent là. Ils ne vont pas plus loin, ils disent, ça me suffit largement. Mais l'apôtre Paul anticipe deux questions qui vont être posées. Il va traiter de ces deux questions dans le chapitre 6. La première question est soulevée au chapitre 6 et verset 1. Il dit, demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Est-ce que je vais continuer à pécher? Comme ça, Dieu, il aura l'occasion de pardonner, puisque ça lui fait tant plaisir. Et puisque la grâce est tellement abondante, eh bien, c'est pas grave, et certains nous accusent que l'évangile est un message trop simple, on peut faire n'importe quoi, Dieu pardonne, et c'est tout fait, et puis il n'y a aucune souffrance, et tout est gratuit, tout est bon. Mais ces gens-là n'ont pas compris. Justement, ils ont besoin de lire ce chapitre 6 pour comprendre que non, c'est pas parce que Dieu, la grâce de Dieu est abondante et parce qu'il désire pardonner et il peut pardonner une grosse quantité de péchés, ce n'est pas pour ça que nous devons continuer dans le péché. Donc il traite cette partie-là dans la première partie, mais à partir du chapitre 15, il y a la deuxième question qu'il va traiter, et nous verrons cela la semaine prochaine. Mais la deuxième question, c'est pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Il dit parce que nous ne sommes plus sous la loi, où chaque péché avait sa peine. Et maintenant, puisque nous sommes sous la grâce, il n'y a pas de peine à subir, donc nous pouvons y aller. Et donc, il retraitera cette question aussi. Nous allons voir la première question aujourd'hui. Et donc, vous voyez, très rapidement, vous voyez dans les deux cas, dès qu'il pose la question, la réponse rapide, c'est « loin de là ». « Loin de là ». Il dit « n'y pense même pas hein ». Ça n'a rien à faire. Ça, c'est la première question. Et ensuite, il va nous expliquer pourquoi. Donc, Paul répond à la première question, et nous le voyons là dans le verset 2. Hein, il dit « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Lui, il répond, il dit « Mais si vous êtes morts au péché, vous ne pouvez pas et mourir au péché et vivre dans le péché. Ça n'a pas de sens. » On ne peut pas être dans l'eau et hors de l'eau. Hein, c'est où on est dans le péché ou on ne l'est pas. Mais on ne peut pas vivre dans le péché. Hein, et là, il ne parle pas, vous remarquez que c'est toujours du singulier, c'est le péché, le principe du péché, c'est vivre dans le péché. Ce n'est pas seulement commettre des fautes, des péchés, mais c'est de vivre là-dedans, hein, de prendre du plaisir là-dedans, de patauger là-dedans. Et donc, là, il nous parle justement de cette la mort. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit de la mort? Eh bien, la mort, c'était une séparation, hein, une rupture avec Dieu. Et donc, là, Paul parle, ici on voit le mot « mort au péché » et il y a le mot « vie ». Hein. Donc c'est là qu'on va voir de tous ces versets-là. Il y a la mort pour vivre. Hein. C'était un peu le titre de l'étude d'aujourd'hui, « mort pour vivre ». Et vous remarquez que l'apôtre Paul s'inclut là. Il dit « nous sommes morts hein. ». Donc comme je vous ai dit depuis le chapitre 4, là il parle de... Maintenant il parle de personnes qui sont justifiés. Hein. À partir du chapitre 4, il nous parle de personnes qui sont justifiées. Et là, il peut s'inclure. Lui-même, hein, vous connaissez son témoignage, un jour, alors que sa tête et son cœur étaient remplis de mauvaises intentions, eh bien, il a pu entendre la voix de Christ qui lui a parlé et qui lui a dit « Tu vas où comme ça, mon frère, mon ami, celui que... où vas-tu ?» Et la réponse de Paul, c'était « Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Prière très courte, mais c'était un revirement total dans sa vie. Et il a changé de vie complètement. C'est-à-dire la partie qui a précédé, c'était la mort, où il vivait pour le péché, même si il vivait selon la loi. Et après cette expérience sur la route de Damas et jusqu'à Damas, là, il va vivre une nouvelle vie. Et c'est cette vie. Et il ne retournera plus à l'ancienne vie. Il veut maintenant... donc la mort, est une rupture, une séparation. Mais la mort aussi, dans le sens ici, ça va être un passage d'une existence à une autre. Mort au péché, c'était une existence, c'était une autorité sous laquelle nous vivions, et la mort met fin à cela et nous donne accès à une autre existence qui est caractérisé par la vie. Hein, et donc, et c'est un autre principe. Et donc, et cette autre vie, eh bien, elle est appelée la vie éternelle. C'est une expression que Jésus a utilisée en parlant à Nicodème. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, rien de plus, rien de moins, quiconque croit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Hein, donc, plutôt que de subir les conséquences éternelles de cet état dans lequel il se trouve, hein, pour lui, la mort, eh bien, c'est un passage, mais qui le mène dans un autre domaine. Hein, vous pensez à la parabole de Lazare et de l'homme riche. Les deux sont morts, mais les deux, chacun s'est retrouvé d'un autre côté d'un abîme. Hein, le riche dit, mais oh, Abraham, je suis du mauvais côté, tu es loin. Et il voit Lazare avec lui. Hein, c'était la mort était un passage, mais ça s'est décidé dans la vie. Et c'était pas possible de changer d'orientation après la mort. Le passage, hein, on passe le tunnel et on se retrouve dans un autre monde. C'est cette mort physique. Hein, donc, mais il nous dit aussi, il y a cette mort spirituelle. Hein, c'était une rupture de communion avec Dieu. Et là, Dieu nous parle, nous répondons, il nous offre le pardon en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, eh bien, nous passons à autre chose qui est la vie éternelle. C'est ça, ça s'appelle tout simplement la nouvelle naissance. C'est le début d'une nouvelle existence, la nouvelle naissance. Et donc, la mort de Christ avait brisé le pouvoir du péché. Christ, quand il a été incarné, il est venu dans notre monde, il était sans péché. Même les hommes aussi tordus que Pilate ou Hérode ont constaté qu'il était sans reproche, qu'il était sans péché. Et Christ, sur la croix, eh bien, il a pris sur lui nos péchés, il a pris sur lui la condamnation qui reposait sur nous. Hein, il nous dit dans 2 Corinthiens 5:21, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, lui, par sa mort, finalement, il prend sur lui le péché et il le vainc et nous donne accès à la vie, hein, à la justice. Alors, dans ce chapitre 6, eh bien, regardez le verset 3, il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts à la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc il est en train de dire, Christ est mort et il est ressuscité. Les disciples l'ont constaté. Ils n'étaient pas prédisposés à le croire, mais par la force des choses, ils ont dû le croire. Et même Thomas. Mais il est en train de nous dire, mais vous pouvez, ce baptême qu'il a eu, lui est descendu dans la mort et il est ressorti vainqueur. Il dit, vous pouvez vous coller à lui, vous pouvez vous associer à lui, vous pouvez vous identifier à lui, vous pouvez devenir un. Et il emploiera l'expression un peu plus loin, au verset 5, il nous dira, nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort. Et donc il dit, nous pouvons devenir, nous joindre à lui, nous coller à lui, et puis passer par le même baptême, celui de la mort au péché, et de résurrection pour la vie. Et en fait, c'est là le processus de la vie nouvelle. Hein, je vous rappelle, hein, c'est ce que Jean-Baptiste avait dit quand il allait annoncer la raison principale pour laquelle Jésus était venu. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu, donc pour l'offrande, qui ôte le péché du monde. » Et c'était suffisant pour le monde entier, pour tous ceux qui, toute l'humanité entière. Maintenant, c'est à nous de passer par ce baptême avec lui. Hein, donc, vous avez peut-être que dès que vous avez entendu le mot baptême, vous avez pensé à un baptême. Et si vous êtes, vous fréquentez les églises baptistes, ben vous pensez tout de suite à cette piscine d'eau dans laquelle on fait les baptêmes. En fait, ici, ce n'est pas du baptême d'eau. Il ne parle pas du baptême d'eau. Il nous parle de ce baptême dans lequel nous devenons un avec Christ en sa mort. Hein, nous associons à lui pour mourir avec lui sur la croix. Passer par la tombe et ressusciter avec lui pour une nouveauté de vie. Bien sûr, le baptême d'eau, en fait, est un symbole qui déclare publiquement que justement j'ai vécu cette mort avec Christ et que j'ai vécu cette résurrection avec Christ pour une vie nouvelle. En fait, c'est donc le baptême d'eau, bien sûr, et c'est pour ça qu'il est important que ce soit une immersion. Hein, donc, on est mort, hein, enterré, et puis ensuite, on ressort ressuscité. Symboliquement, c'est là, mais en fait, la réalité, ce n'est pas l'eau. L'eau n'est que le symbole. La réalité, c'est ce qui s'est passé dans mon cœur le jour où j'ai demandé à Dieu de pardonner mon péché. Avec cette idée de, voilà, il me délivre de ce péché, il me délivre de ce principe de la mort qui provoquait chez moi les actes de péché, et puis je ressuscite avec lui en nouveauté de vie, et maintenant je vis une autre vie, et je vis pour lui, à sa gloire. Et donc, quand je lis donc ce passage, je relis maintenant, il dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Hein? » Donc ce n'est pas seulement une existence, on commence à marcher dès maintenant. Hein? Dès que c'est passé, on commence à marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas quelque chose pour un jour où nous, après la tombe, ça commence maintenant. C'est maintenant que nous avons la vie éternelle. Hein? J'ai cité Jean 3,16 tout à l'heure, et il nous dit « afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait ». Ce n'est pas qu'il aura, mais qu'il ait la vie éternelle. On l'a maintenant. Et Paul souligne, donc il nous dit que nous nous sommes identifiés à lui en sa mort pour nous extraire du pouvoir du péché. Et donc ce verset 5, il nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante, hein, si nous nous sommes identifiés à lui, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, le Steve qui vivait sous le pouvoir et l'autorité du péché, hein, eh bien, il a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ça le verset 6. Et celui qui est mort est libre du péché. Hein, donc une fois que on est mort, donc quand on parle de pouvoir du péché, on parle de l'autorité du péché, ce pouvoir qu'il a de s'imposer sur nous et d'influencer notre vie. Il dit ça, c'est brisé. Hein, il n'a plus, on n'est plus. C'est comme un esclave qui a été libéré. Hein, quelqu'un l'a acheté de l'ancien maître, et puis ensuite il a dit maintenant, écoute, je te lâche, tu es libre, tu es un homme libre. Et bien cet homme, s'il rencontre un jour l'ancien maître, et bien ce maître ne pourra pas lui donner des ordres. Il dit non, tu n'es plus mon maître. Ça, moi, ça y est, c'est réglé, il n'y a plus rien. Et de même, nous ne sommes plus sous l'obligation d'écouter les anciennes influences, le péché qui nous suggère quelque chose qui, en fait, qui nous éloigne de Dieu hein, de plus en plus. Mais nous sommes maintenant, nous répondons, il nous a libérés. Hein, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans mon monde, il me libère. Et puis ensuite, il me dit, maintenant, tu vas choisir qui? Et ben, la seule chose, celui qui m'a libéré, je veux suivre, je veux choisir Christ qui m'a libéré et le suivre. Et donc, d'où dans ces passages suivants, bien, il va nous suggérer de ne plus être esclave du péché, mais de maintenant, en tant que personne libre du principe du péché, de l'autorité du péché, de vivre pour Dieu. Le verset 7 nous dit « Car celui qui est mort est libre du péché. Le péché ne peut plus s'imposer sur lui. » Oh, il va peut-être, hein, vous et moi, on le sait, il va essayer de nous attirer, il va essayer de nous distraire, il va essayer de nous faire chuter. Et la réalité, c'est que nous chutons même. Hein. Mais ça, ce sont des actes de péché, mais nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché. Nous sommes libérés. Il dit au verset 8, « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, donc sur nous aussi. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, voilà, il dit, parce que ça c'est une réalité. Christ est mort, et il est ressuscité, il ne mourra plus jamais. Eh bien, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Voilà, vous étiez sous un certain esclavage, maintenant vous êtes libre, et le choix naturel, c'est de dire, Jésus, je veux te suivre. Tu as fait cette œuvre pour moi, c'est grâce à toi que je suis libéré, celui qui vit cette mort-là avec Christ, eh bien, ne vivra pas la seconde mort. Hein. Et ensuite, alors, il dit, au verset 12, il dit donc, comprenez, maintenant, si vous avez vécu cela, hein, si ceci est une réalité dans votre vie, eh bien, verset 12, « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. » Vous n'êtes sous aucune obligation d'obéir aux convoitises. Vous n'êtes plus sous aucune obligation d'obéir à la chair. Il dit, au verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Il dit, vous avez été libérés. Il vous a donné cette liberté. Maintenant, il dit, maintenant choisis la vie. Et il dit, en fait, ce que je vous propose, ce que je vous suggère fortement, c'est maintenant de vous donner à Dieu. Donnez vos membres, vos activités, votre vie, tout ce que vous allez accomplir. Mettez tout cela à la disposition de Dieu. Il dit. C'est pour ça que, à moins que la personne ait vécu cela, hein, le baptême d'eau, il n'a aucun sens. Et personnellement, pour moi, j'aime voir des changements, j'aime voir des signes de cette nouveauté de vie dans la personne avant de passer par le baptême des eaux. C'est une obéissance, Jésus a ordonné, il a dit « faites des disciples », et ce sont les disciples qu'on baptise. Hein, ce ne sont pas des pécheurs qu'on baptise pour leur donner la vie éternelle, ce sont des disciples, des gens qui ont déjà choisi de suivre Christ, qui vont être baptisés. Hein. « Faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, l'obéissance à la part de Dieu s'inclut. Et donc, nous sommes appelés à mourir au péché, et parce que nous sommes ressuscités avec Christ, de vivre en nouveauté de vie. Hein, il nous parle au verset. Vous avez vu qu'il nous avait parlé du vieil homme, hein, au chapitre, au verset 6, Il nous dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc s'il a été crucifié, eh bien, il n'est plus. Hein? C'est le vieil, maintenant c'est la personne nouvelle. Et cette mort que nous avons en Christ, eh bien en fait c'est une libération pour nous. C'est pas une souffrance, c'est une libération. Hein? Et nous ressentons cette libération dans notre cœur. Et nous devons être morts au péché et maintenant vivre comme vivants pour Christ. Nous ne devons plus vivre sous le règne du péché, ne plus obéir à ses convoitises. Nous devons maintenant ne plus livrer nos membres au péché, mais les offrir à Dieu comme des instruments de justice. Le péché, nous dit verset 14, n'a plus de pouvoir sur nous. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'autorité. Il ne peut pas s'imposer. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Vous savez, ce qui arrive parfois à certains chrétiens, ils passent à la croix et ils veulent recevoir l'expiation pour leur péché, hein, pluriel, mais ils ne vont pas jusqu'à la résurrection. Et donc, ils n'acceptent pas Jésus le Seigneur. Ils l'acceptent sauveur, et puis ils restent coincés entre le vendredi de la crucifixion et le dimanche matin de la résurrection. Et ils sont là, hein, les péchés sont pardonnés, mais ils vivent leur vie un peu comme les disciples jusqu'au jour où ils ont cru que Jésus était vraiment ressuscité. Donc ils vivaient dans la peur, il n'y avait pas l'épanouissement, il n'y avait pas la joie, il y avait le doute, il y avait... c'est impossible. Parce que si on peut... les disciples avaient vu Christ mort, mais ils ne l'avaient pas encore vu ressuscité. Et ils vivaient des jours malheureux. Mais quand ils ont vu que Christ, hein, comme c'est les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient tellement tristes en allant, ça se voyait, Jésus a dit, mais vous avez l'air tout triste. Mais quand ils sont ce soir-là, après avoir vu le Christ ressuscité, en revenant, c'était carrément autre chose. Et ils se réjouissaient, ils ont annoncé aux autres disciples que Jésus était ressuscité, comme les femmes l'avaient dit. Hein, donc, j'espère que pour vous, où est-ce que vous vous situez? Peut-être que vous êtes avant la croix, vous n'êtes pas encore venu à la croix, vous n'avez pas encore reconnu votre état de pécheur, vous n'avez pas reconnu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Faites-le, venez à la croix, demandez à Dieu de vous pardonner par le sang versé de Christ sur la croix. Et il vous pardonnera. Mais après, ne vous arrêtez pas là, mais continuez pour cette résurrection et cette vie nouvelle en Christ. Et de vivre la vie et de vivre cette relation de Jésus Seigneur. Donc il est Seigneur et Sauveur. Hein. Et c'est important qu'il soit Seigneur. Hein. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas prendre une partie du message. Si vous êtes coincé entre la croix et la résurrection de Christ, alors allez plus loin. Ressuscité avec Christ, nouveauté de vie et vivez pour lui. L'apôtre Paul dira aux Galates, il exprimera de cette manière, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous voyez cette notion de mourir avec Christ et ressusciter avec lui. La vie d'avant, je ne la vis plus. Maintenant, je vis une autre vie. C'est lui qui la vit à travers moi. Et donc, c'est à chacun de nous de nous arrêter et de prendre, d'évaluer notre état. Ou est-ce que pendant un temps, j'ai été au-delà de la résurrection, mais ensuite, j'ai glissé en arrière. Ce n'est pas que j'ai perdu mon salut, mais je me retrouve entre vendredi et dimanche. Et donc, je suis bien triste et bien malheureux. Donc, c'est à chacun d'eux. Donc, pour revoir ce qu'on a vu aujourd'hui, le pécheur peut entendre la parole de Dieu, l'invitation de Dieu, Il peut répondre ou il peut s'endurcir. Il ne fait qu'accepter ce que Dieu lui propose. Et maintenant, quand il comprend ce message, eh bien, il se joint à Christ qui est mort sur la croix. Il meurt avec lui, hein, et il veut ressusciter avec lui une vie nouvelle. Et maintenant, la question qui avait été posée, est-ce qu'on va continuer à vivre dans le péché? Il dit certainement pas. Certainement pas. C'est pas possible. Mais si on est mort au péché, on ne peut plus vivre dans le péché. Même si il nous arrive de commettre des péchés, hein, et là, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je veux prier avec vous, hein, que le Seigneur vous permette de vraiment comprendre là où vous vous trouvez et que vous puissiez vivre une vie épanouie. C'est ça l'évangile de Dieu. Père Céleste, je te prie pour cette personne qui écoute, je te prie de l'aider à comprendre cette vérité. Je prie qu'elle puisse comprendre où elle se trouve par rapport à tout cela. Peu importe sa situation, à partir du moment qu'elle entend ton message, eh bien, qu'elle peut entendre ton message, l'espoir, l'espérance est là. Et donc, si c'est avant la croix, qu'elle vienne à la croix, qu'elle meure, reçoive le pardon des péchés que tu as acquis par le sang versé, et puis qu'elle continue par cette résurrection avec toi, afin de vivre une nouvelle vie en toi, et d'être délivrée. Et Seigneur, et là, la mort est une délivrance, parce que on est tombé dans cet état par une désobéissance, mais on sort de là par l'obéissance de Jésus-Christ, et nous pouvons vivre une nouvelle vie avec un maître nouveau, Jésus-Christ, et livrer nos membres à Dieu comme instrument de justice, ce qui correspond exactement à ce pourquoi nous avons été créés. Et donc nous pouvons vivre la paix et nous pouvons vivre une vie épanouie. Et Seigneur, je te prie pour chacun qui écoute. Je te prie pour moi-même que tu m'aides à vivre cette vie pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.